Moment charnière entre l'enfance et l'âge adulte, l'adolescence donc est une période de la vie pendant laquelle les adultes peuvent se sentir démunis face aux problèmes et aux angoisses de leurs enfants au cœur d'une société particulièrement anxiogène, avec un monde menaçant et incertain, avec la prolifération des conduites à risque. Les parents comme les adolescents se retrouvent souvent désemparés. Comment retrouver la confiance dans ce contexte? C'est ce que nous allons voir avec mes invités qui répondront à vos questions et bien sûr à vos témoignages. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour nous retrouver. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, la surexposition des femmes enceintes à l'arsenic et au mercure.
Oui, une information révélée par l'agence Santé publique France qui publie un rapport très complet sur l'exposition aux polluants pendant la grossesse. On tire les premières conclusions avec l'épidémiologiste Rémi Slamard.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Villard sur France Inter.
Comment accompagner les adolescents, ce sera donc le dossier de l'émission dans un instant avec mes invités que je salue, les pédopsychiatres Marion Robin et Olivier Fan. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue Marion Robin, qui sont les plus angoissés aujourd'hui? Est-ce que ce sont les parents ou leurs adolescents?
Les parents beaucoup. Les parents beaucoup, mais les adolescents, ils le ressentent moins, ils l'agissent plus.
Ils ressentent moins l'angoisse de leurs parents?
Non, ils ressentent moins leurs propres angoisses, mais on va plutôt le voir parce qu'ils les agissent, qu'ils ne les ressentent.
Olivier Fan, le cerveau des ados, c'est un cerveau évidemment en pleine construction. Hein. C'est une période particulièrement sensible justement,
oui,
de ce point de vue-là aussi.
Où, effectivement, on a plusieurs cerveaux qui se développent. Hein. Ils arrivent à maturité.
Plusieurs cerveaux.
Et oui, oui. Le cerveau émotionnel, le cerveau cognitif, et c'est un cerveau qui explose en termes de connexion. Donc c'est à la fois riche et effectivement propice au risque. Mmh.
On va voir donc dans ce contexte comment sortir de l'angoisse lorsqu'elle existe évidemment et comment accompagner les adolescents avec les messages des auditeurs. Les poissons et les produits de la mer, une source de nutriments essentiels pour la femme enceinte et son fœtus. Et pourtant, il faudra peut-être désormais s'en méfier un peu plus, à en croire le rapport de l'agence Santé publique France publié hier. L'imprégnation au mercure et à l'arsenic liés à ces produits dépasse les 90% chez les femmes françaises. On discute des résultats de cette large étude avec notre invité Axel Villard.
Oui, on est au téléphone avec l'épidémiologiste Rémi Slama. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, responsable de l'équipe épidémiologie environnementale à l'IAB de Grenoble. Alors, sur les 13 métaux et métalloïdes traqués par l'agence française Santé publique France, le mercure et l'arsenic, c'est vraiment les deux à retenir en priorité après lecture de ce rapport?
Alors, ce sont des substances préoccupantes pour la santé, donc c'est très important d'avoir des données précises sur l'exposition des femmes enceintes. Mais enfin, c'est un rapport très riche qui concerne, comme vous venez de le dire, 13 substances métalliques ou métalloïdes. Et on peut aussi s'intéresser aux résultats concernant le plomb, qui sont elles, relativement positives dans la mesure où elles montrent une diminution de cette imprégnation par le plomb, ce qui montre que les efforts et la réglementation, notamment l'interdiction de l'essence au plomb en l'an 2000 en France, payent et probablement entraînent un effet bénéfique pour la santé des femmes enceintes et des enfants.
Qu'est-ce que ça veut dire un taux d'imprégnation de 90% chez les femmes enceintes pour l'arsenic et le mercure?
Alors, c'est pas très parlant et je suis pas sûr que, effectivement, le taux de détection soit le meilleur indicateur. Ça veut simplement dire que, avec la méthodologie utilisée par les laboratoires que Santé publique France a commissionné, eh bien, pour 90% des femmes, on retrouve dans le liquide biologique dans lequel il a été dosé la substance. Mais en fait, ça dépend du seuil de détection utilisé par la machine. Ce qui serait vraiment important, ce serait de savoir quels sont les cas de maladie, le nombre de cas de maladie qu'on peut attendre en France du fait de cette exposition. Et ça, ce n'est pas dit par ce taux d'imprégnation qui reflète deux choses, à la fois une imprégnation généralisée de la population et aussi que les méthodes de détection aujourd'hui sont très sensibles, donc on arrive à avoir des niveaux très faibles qui sortent des machines.
Mais justement, vous avez certainement regardé le rapport, les taux d'exposition, est-ce qu'ils sont inquiétants ou simplement révèlent la présence des polluants?
Alors, pour moi, dans la mesure où Santé publique France n'est pas allé chercher des substances au hasard anodines, mais des substances qui sont préoccupantes pour la santé, pour lesquelles la toxicologie indique de nombreux effets. Plusieurs d'entre elles sont des carcinogènes, comme l'arsenic, le cadmium, le chrome hexavalent, par exemple. Savoir qu'on retrouve dans l'organisme des femmes enceintes, et en général, ça veut dire aussi chez le fœtus, parce que la barrière placentaire n'est pas efficace, toutes ces substances, et à la fois ces 13 métaux, mais aussi les dizaines de substances organiques qui ont déjà été dosées par Santé publique France, c'est préoccupant parce que, en fait, pour beaucoup de ces substances, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a un seuil sans effet sanitaire. C'est pas une nouveauté et une grosse surprise, parce que les Américains font ce genre d'études depuis longtemps avec des résultats similaires, mais effectivement, c'est préoccupant parce que ça nous montre la pollution comme un phénomène global, qui est pas simplement dans l'air et dans l'eau, mais qui est aussi dans nos fluides biologiques. Il est aussi dans le lait maternel et dans les aliments, y compris ceux qui possèdent les meilleures qualités nutritives, comme les poissons.
Oui, alors c'est ça, Rémi Slama, parce que justement, ces produits comme le poisson, on les conseille plutôt d'habitude aux femmes enceintes, non ?
Oui, et je crois pas qu'on en soit au stade où on va cesser de recommander aux femmes enceintes de manger du poisson. Par contre, l'ANSES, l'Agence de Sécurité Sanitaire, rappelle que il faut se limiter à 2 portions de poisson par semaine, et notamment limiter les poissons gras, comme thon, maquereau, saumon, qui sont les plus contaminés dans les métaux lourds. Donc il y a une recommandation qui est un peu un compromis entre l'apport en acide en oméga 3 insaturés, en sélénium, qui sont des éléments essentiels et très importants pour le développement notamment du cerveau du fœtus, et la diminution de la contamination par le mercure ou l'arsenic ou d'autres métaux.
Rémi Slama, est-ce que le fait que l'étude ait été menée seulement sur des femmes enceintes qui ont effectivement accouché, est-ce que ça ne supprime pas une partie des expositions et peut-être les plus sévères ?
Alors effectivement, les prélèvements ont eu lieu à la naissance, parce que ça s'appuie sur l'accord de l'INSERM et de l'INED qui est ELF, dans laquelle les femmes sont recrutées au moment de l'accouchement. Je dirais que pour ce volet de l'étude qui concerne les métaux, c'est pas forcément trop préoccupant, parce qu'on est face à des substances qui ont une demi-vie qui est pas très longue, c'est-à-dire que c'est des substances pour beaucoup ne persistent pas très longtemps dans l'organisme, avec des exceptions comme le plomb, mais qui sont supérieures à quelques heures. Donc même si on aurait aimé avoir aussi des dosages pendant la grossesse, je pense pas qu'il y ait une diminution extrêmement forte liée au fait que peut-être la maman ne s'est pas alimentée dans les dernières heures précédant le prélèvement. Donc je pense que c'est vraiment des informations extrêmement précieuses qui sont livrées là sur ces expositions des femmes enceintes. Si pour des substances très peu persistantes comme le bisphénol A qui a une demi-vie de quelques heures, c'est un peu plus embêtant d'avoir uniquement un prélèvement juste lors de l'accouchement et de pas en avoir pendant la grossesse.
Mais justement, vous en parlez, ce travail, c'est le deuxième volet d'un travail plus large sur la femme enceinte avec d'autres polluants comme les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Est-ce que cette pollution généralisée est inquiétante pour vous, épidémiologiste ?
Alors, je dirais d'abord que effectivement, du point de vue purement scientifique et de santé publique, aujourd'hui, grâce à cette étude de biosurveillance, ce volet sur les métaux, le volet ancien sur les polluants organiques, et puis grâce à l'enquête sur l'alimentation totale infantile de l'ANSES, grâce aussi à l'enquête nationale périnatale de l'INSERM et du ministère de la Santé, on a un tableau complet pour la France de la santé des mamans, des nouveau-nés, de ce qu'ils ont dans l'organisme pour une centaine de substances et parmi les plus préoccupantes, et de ce qu'ils consomment. Donc on a enfin un tableau extrêmement précieux que, grâce aux efforts des ministères en gros de la santé et de l'environnement, différentes équipes ont pu assembler. Donc déjà ça, c'est pour la science et la santé publique, c'est extrêmement précieux, et je pense qu'il y aura beaucoup d'autres travaux que ce rapport qui vient d'être publié qui pourront sortir de ce tableau.
Ouais, sauf qu'on on en fait quoi justement, Rémi Slama, de tous ces résultats? Parce que la pollution est là, mais les effets délétères et les effets pour la santé, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui exactement?
Alors, qu'est-ce qu'on en fait ou qu'est-ce qu'on en sait ?
Qu'est-ce qu'on en sait ? La connaissance de...
On sait que pour une grande partie de ces substances, elles sont vraiment préoccupantes sur la santé. Elles ont des effets, et souvent à des très faibles doses, sur des animaux de laboratoire ou sur l'humain. Je veux dire, le plomb, ça fait 2000 ans, voire 4000, que l'humain sait que le plomb est une substance néfaste. Et ce n'est qu'en 1993 qu'il a été interdit des peintures, et en 2000 de l'essence. Donc, on a beaucoup de connaissances sur le fait que ces substances soient nocives. Ces connaissances, toutefois, chez l'humain, ne sont pas toujours suffisamment fines pour qu'on puisse traduire ces taux d'imprégnation en nombre de cas attribuables et pouvoir dire aujourd'hui sur les cas de cancer qui surviennent, les cas de cancer du sein qui surviennent entre 50 et 60 ans, entre sur tel et tel problème de neurodéveloppement, il y en a 1%, 5%, 30% qui sont dus à l'environnement. On a des estimations pour les perturbateurs endocriniens, qui est le coût sanitaire de l'exposition à ces perturbateurs endocriniens, mais on n'est pas au stade où, comme pour les polluants atmosphériques par exemple, on peut calculer des nombres de cas attribuables. Bon. Donc là, ce serait l'étape prochaine, mais je dirais que ce rapport de Santé publique France est vraiment crucial pour justement se rapprocher de cette deuxième étape et faire un exercice qu'on appelle le fardeau de maladie, qui dirait pour chaque polluant environnemental le nombre de cas de pathologie qui lui est attribuable, qui lui est associé dans notre pays aujourd'hui.
Donc pas d'extrapolation inutile pour l'instant, Rémi Slama. On a un indicateur sur la pollution, mais pas sur les maladies réelles causées par ces pollutions.
Il faut être conscient que si on voulait vraiment caractériser l'effet sanitaire associé directement, il faudrait être capable de faire cette étude, non pas sur quelques centaines ou un millier de femmes, mais sur des dizaines ou des centaines de milliers, et les suivre pendant des décennies. Ouais. Donc il est aussi important de s'appuyer sur les données de la toxicologie chez l'animal, qui permettent d'avoir des réponses à plus rapides, et elles nous disent que toutes ces substances, elles ne sont pas bonnes. Donc c'est clairement pas une bonne nouvelle que les enfants naissent avec dans cet environnement pollué, qui est en gros la part sombre de l'héritage des 30 glorieuses, j'ai envie de dire, hein, parce que ce que ces jeunes mamans lèguent comme cadeau, entre guillemets, à leurs enfants à la naissance, c'est des substances qui sont liées à la façon dont leurs propres parents ou leurs grands-parents ont produit et vécu dans les années 60, 70, 80 et avant.
Merci Rémi Slama. On peut citer également votre ouvrage Le mal du dehors, qui a été publié aux éditions Quai. Merci beaucoup et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'intolérance au lactose, peut-être bientôt de l'histoire ancienne. Des chercheurs de Lille viennent de découvrir par hasard une manière de traiter cette pathologie qui toucherait quand même entre 30 et 50% des Français. Et c'est en testant de nouvelles molécules susceptibles de lutter contre une autre maladie inflammatoire intestinale qu'ils se sont aperçus que la stimulation de certains récepteurs encourageait la sécrétion de lactase, cette protéine dont le déficit est à l'origine de l'intolérance. Des nutriments capables de stimuler ces récepteurs sont déjà présents dans certains aliments. Le régime alimentaire ciblé offrirait donc de belles perspectives dans la mise en place d'un traitement efficace, aujourd'hui donc inexistant. Et si le mal des montagnes nous révélait la folie, des chercheurs en médecine de l'université d'Innsbruck en Autriche ont étudié près de 80 rapports de psychose décrits par des alpinistes en haute altitude, généralement attribués à un œdème cérébral. Les hallucinations, vertiges et autres migraines qui caractérisent le mal des montagnes seraient en fait dues à autre chose. Pour les spécialistes, il s'agirait d'une prédisposition à certaines maladies mentales déclenchées par le manque d'oxygène et le gonflement de certaines zones cérébrales ou bien encore la baisse de pression au-dessus de 7000 mètres d'altitude. Ces résultats concernant des épisodes passagers de psychose pourraient, s'ils sont confirmés, apporter d'importantes nouveautés sur des maladies psychiatriques comme la schizophrénie. Et puis pourquoi certains rongeurs hibernent et d'autres pas? Des chercheurs de l'université de Yale ont étudié les capacités de certains rongeurs à ressentir les variations de température. Bien que tous les rongeurs soient en mesure de ressentir le froid en général, les récepteurs mis en jeu chez les rongeurs qui hibernent doivent être davantage stimulés que chez les autres. Les chercheurs montrent que si les souris ressentent aisément les variations de température entre 30 et 20 degrés, ce n'est pas le cas des écureuils ou des hamsters qui ne ressentent aucune variation au-dessus de 5 degrés. C'est donc cette résistance décalée au froid qui permettrait donc à certains rongeurs d'hiberner et à d'autres pas. Allez nos ados, on en parle dans un instant, c'est le dossier de l'émission.
The more I
MGMT avec Little Dark Age.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà ce dossier consacré aux adolescents pour voir comment les accompagner au mieux dans une société particulièrement anxiogène et difficile. Marion Robin, vous êtes avec nous, psychiatre pour adolescents à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris. Mmh. Et donc vous avez publié cet ouvrage « Ados désemparés, recherche société vivante » chez Odile Jacob. Et puis Olivier Fan, vous êtes également pédopsychiatre, addictologue, docteur en neurosciences à la Fondation Santé des étudiants de France. Et vous êtes vous l'auteur d'un autre ouvrage « Jeux vidéo, alcool, cannabis » aux éditions Solar. Et les auditeurs nous rejoignent déjà avec beaucoup de messages et de témoignages sur le site de l'émission. Un mot, Olivier Fan, quand même, sur cette fondation santé des étudiants de France qui est assez singulière.
Oui, oui, c'est une fondation qui s'occupe à la fois d'adolescents pour que malgré les maladies mentales, ils puissent être scolarisés. La fondation a une centaine d'années, au départ s'occuper de tuberculeux, sa devise c'est étudier quand même, oui. Et nous occupons d'adolescents pour qu'ils puissent poursuivre leurs études malgré les pathologies psychiatriques et leur addiction.
Ouais, ils le font au sein de la fondation ?
Ils font au sein des établissements de la fondation.
Les cours et les
ils
soins.
Ont les cours et les soins au même endroit. La particularité de la fondation, c'est d'être un établissement et de l'éducation nationale et de santé. Ouais. La moitié du personnel sont les médecins, l'autre moitié sont des profs. Et on essaye d'intervenir ensemble pour le bien-être des adolescents.
Ouais. C'est étonnant comme structure, il y en a beaucoup.
Oui, alors il y en a une vingtaine d'établissements sur toute la France. Mmh. Voilà, qui s'occupe de ça. C'est vrai que les tuberculos ayant disparu, du coup, c'est la maladie mentale qui est importante. Et je crois que c'est important pour les adolescents de les maintenir dans leur activité parce que l'hospitalisation, l'inconvénient, c'est que ça les retire.
Bien sûr.
Et que là, c'est en même temps, et on peut les voir in situ, je dirais, au sein même de leurs études, adapter aussi les cours à cette population fragile.
Ils peuvent rester combien de temps alors ?
Alors de 6 mois à 1 an, hein, c'est des périodes. On a des classes qui vont collège, lycée, avec des résultats intéressants, puisque sur notre population fragile, on arrive à 80% de réussite au bac, avec, pour ceux qui s'y représentent. Oui, c'est du long travail, c'est surtout un travail d'équipe, et une fondation qui a un peu d'expérience.
Marion Robin, comment vont-ils ces adolescents aujourd'hui, allez, quasiment en 2018 ? Est-ce qu'ils vont si mal que ça d'abord ? Parce qu'on les présente souvent sous cette facette-là. Ouais. Est-ce qu'on n'exagère pas un petit peu aussi le tableau ?
Je pense qu'il y a une forme d'attraction pour, une fascination pour l'adolescence dans sa complexité, sauf qu'on en a une visibilité finalement assez simpliste qui est, si on tape adolescent sur Google, on va atterrir sur soit les violences urbaines, soit la souffrance psychique, le suicide, etc.
C'est très stigmatisant quand même pour ces jeunes.
Bah oui, oui. Ouais. Et puis ça leur retombe dessus cette image, parce que pendant qu'on parle de ça, on parle pas de tout ce qu'ils font à côté, on parle pas de leurs questions à eux, on parle de nos préoccupations à nous, sur eux, les concernant. Donc oui, effectivement, il y a une visibilité de l'adolescence là qui a évolué vers quelque chose d'une image mortifère et qui peut inconsciemment les attirer aussi vers ça. C'est-à-dire que si les adultes parlent d'eux que sous la forme de la violence et de la mort, eux, la place qu'ils peuvent prendre inconsciemment, elle va plutôt de ce côté-là aussi.
Donc ça veut dire que c'est un travers à combattre aussi au sein même de notre société, au sein même du cocon familial, alors ?
Je pense que c'est plutôt une réflexion collective que quelque chose qui va appartenir à chaque parent, parce que c'est au-delà aussi de leur capacité à eux seuls, mais il y a une réflexion collective sur la place qu'on leur donne, la visibilité même médiatique, de pouvoir entendre leurs questions, leurs actions. On a par exemple connu la COP21, on a très peu parlé de la COI, qui était l'organisation derrière la COP21, qui a été assurée par les 15-30 ans, où ils ont eu une organisation incroyable autour du développement durable. Ils se sont organiser cet événement de façon tout à fait impressionnante. Et voilà, on n'en a pas assez parlé, je trouve, et d'une façon générale, de ce qu'ils peuvent. Ils ont un investissement dans la vie associative, les jeunes adultes, les 15-30 ans, surtout les 18-25, qui est là, qui est présent et qui est en prise avec les questions d'aujourd'hui, du développement durable, de la transition énergétique citoyenne. Ils sont sur ces terrains-là vraiment actifs.
Et très proactifs, effectivement. Hein. Mmh. Olivier Fan, ils s'en sortent plutôt pas mal, quand même, nos adolescents. On pourrait peut-être commencer l'émission en le disant, clairement.
Oui, la majorité vont bien, et Dieu merci. Et d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est que la conduite à risque est quelque chose de normal. Sans conduite à risque, sans prise de risque, la société ne connaîtrait pas ce développement. Les grands chercheurs, les grands explorateurs les grands hommes sont des gens qui ont pris des risques.
Et c'est particulièrement vrai pour cette période aussi de la vie,
et
non?
Et c'est particulier, puisque c'est au moment où on prend son indépendance qu'on doit être la prise de risque. Hein, y a un adolescent qui ne prendrait aucun risque peut être aussi considéré comme un état de souffrance et de mal-être. Donc là aussi, l'adolescence n'est pas une pathologie, c'est une période riche et qu'il faut savoir accompagner, hein, puisque la prise de risque est normale, la mise en danger l'est moins, et on est là plutôt pour les protéger que d'être des empêcheurs de tourner en rond.
On aimerait bien arrêter l'émission à ce stade, hein, sur cette phrase, mais malheureusement, il y a quand même des choses à dire, effectivement, sur un contexte particulièrement difficile. On va d'ailleurs tout de suite écouter un reportage extrait des informations autour des attentats.
Pas même un regard sur le gendarme et son fusil posté au coin d'une rue de Paris. Avec l'opération Sentinelle, entre 7000 et 10000 hommes patrouillent quotidiennement autour de sites sensibles, laissant parents et enfants un peu perplexes sur l'impact de cette omniprésence.
Ça me rassure pas du tout en fait, non. Au contraire, ça donne plutôt l'impression que là, les terroristes vont venir, quoi.
Ça va faire partie de leur monde et de leur univers. Et d'ailleurs, quand il les voit, il n'est pas plus alarmé que ça.
Ce qui est le plus choquant, c'est de voir des fusillades. Donc je préfère voir qu'elle voit des armes plutôt que... la voie des bombes explosées.
Reste une inconnue les effets à long terme de l'installation de ces hommes armés dans le paysage de toute une génération d'enfants. Car avec le niveau de menace d'attentat, ces milliers de militaires et de policiers ne sont pas prêts de disparaître.
Voilà, c'était en octobre 2016, reportage proposé par l'AFP. Marion Robin, donc, il faut aussi comprendre quand même aujourd'hui l'adolescence dans ce contexte urbain très particulier, non ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai commencé à écrire ce livre après les attentats, au moment où j'observais un certain nombre de citoyens dire « je vais... voilà, on a peur, mais on va pas se laisser gagner par la peur ». Finalement, on va voilà parce que on a besoin de continuer à vivre et qu'on a besoin de continuer à créer du lien. On a besoin de continuer à développer les arts, la créativité, l'art, etc. Mmh.
Mais malgré tout, ce sont quand même des angoisses qui infiltrent un petit peu le tissu familial. Et...
Complètement, c'est une angoisse de fond. Mais voilà, ce sur quoi j'ai souhaité me pencher, c'est finalement qu'est-ce qui fait qu'à un moment on va décider d'être contenant. C'est-à-dire par rapport à une angoisse, il y a des angoisses, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais elles changent de forme au fur et à mesure de l'histoire. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va décider qu'on est contenant ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va décider d'arrêter cette angoisse ? D'arrêter ou alors de la réguler. Contenant, c'est comme avoir bonne contenance. C'est un moment, c'est combattre quelque chose, combattre la peur.
Et maîtriser aussi.
Et maîtriser, partager, réguler, mais en faire quelque chose. Plutôt que simplement la laisser passer et puis la confier à quelqu'un d'autre qui va la confier à quelqu'un d'autre qui va la confier à quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'analyse cette contenance aux trois étages de la société. Du côté institutionnel, la contenance globale, c'est-à-dire les réflexions collectives, la façon dont on va gérer les peurs collectives et la façon dont on peut aussi se créer des psychoses collectives ou bien vivre ces psychoses collectives qui sont là. Et puis il y a la contenance locale, celle qui est le tissu immédiat autour de l'adolescent, c'est-à-dire la famille, et autour de ça, le réseau associatif, le réseau de voisinage, la famille au sens élargi. Et puis, il y a le contenant individuel. C'est comment moi, donc c'était ce témoignage des citoyens, comment moi je peux agir sur mes propres peurs au niveau individuel. Et par rapport à, vous disiez effectivement, on aurait pu arrêter l'émission là, mais il faut bien qu'on parle aussi de tout ce qui va mal. Il y a quand même quelque chose aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure de la fascination pour la mort, on contrôle pas, on contient pas, on contrôle pas les passages à l'acte suicidaire des ados qui continuent quand même à augmenter. Mmh. Et aujourd'hui, c'est une source quand même d'appels importants des adolescents en souffrance de faire des tentatives de suicide avalées. Et là, on n'est pas encore assez contenant avec cette question-là. Et une hypothèse que les chercheurs mettent en avant sur le fait qu'en France, on soit quand même pas mal en difficulté avec les comportements suicidaires, probablement plus qu'ailleurs en Europe. Une hypothèse intéressante est que finalement, on est par rapport aux pays du Nord, on a mis en œuvre moins de moyens de prévention du côté du suicide, des comportements suicidaires. Mais par rapport aux pays du Sud, de l'Europe, on a moins de tissu local, justement, de tissu associatif, de tissu qui va permettre d'être résilient par rapport aux souffrances de l'adolescent. Je trouve que c'est une hypothèse intéressante à réfléchir, en tout cas.
On y reviendra sur cette question du suicide tout à l'heure. Salima nous envoie ce message. Le mal-être adolescent semble trouver sa source dans la confrontation du cocon familial et le monde réel où tous les coups sont permis, le mensonge, la violence, l'hypocrisie érigée en règle de vie. Comment armer nos enfants pour faire face à cette réalité, Olivier Fan ?
Je crois que ça commence effectivement au sein de la famille, avec des parents qui vont être à la fois contenants, rassurants, où l'enfant va pouvoir demander de l'aide et finalement en recevoir, hein, aussi, ce qui créera, je dirais, une sécurité pour affronter le monde tel qu'il est. C'est pas toujours un cocon d'ailleurs.
Ouais.
Je crois que les adolescents sont aussi confrontés à l'intérieur de la famille à des difficultés, hein, mais je crois que préparer les adolescents, c'est aussi les préparer à la fois au niveau intellectuel et aussi au niveau émotionnel.
Ouais. Mais vous, qui les côtoyez au quotidien justement, ces ados, cette peur par exemple des attentats, ce contexte très particulier dans notre société aujourd'hui, est-ce que ça ressort vraiment? Est-ce que c'est des choses qu'ils expriment, dont ils ont vraiment peur ou pas? Ou finalement avec lesquelles ils vivent normalement?
Je crois que c'est quelque chose avec lequel ils vivent. Ils se sont adaptés. Et puis bon, les attentats sont relativement rares. Heureusement, et que c'est à travers les médias qu'ils ont appris et pas forcément en direct. Ils en parlent relativement peu par rapport à ça. Je crois que c'est quelque chose qu'ils vivent. Alors là, on le voit, c'est à travers le jeu. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, ils rejouent dans le jeu ce qui est parfois angoissant dans l'avenir. Nous, on le voit surtout sur les joueurs. C'est-à-dire que le jeu, c'est une manière de conjurer ce qu'on a à faire face, sauf qu'on va le maîtriser. C'est-à-dire, on maîtrise pas toujours les conflits, ce qu'on va découvrir, mais on le maîtrise à travers le jeu, et c'est une manière un petit peu de s'entraîner, et ça, on le voit.
Marion Robin, Olivier Fan, vous êtes nos invités cet après-midi pour parler des adolescents avec les auditeurs qui sont avec nous sur franceinter.fr.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient.
Et c'était en 63, pour ceux qui s'en souviennent, le temps de l'amour, la voix de Françoise Hardy.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Deux pédopsychiatres avec nous cet après-midi, Marion Robin et Olivier Fan, avec pour Marion Robin, Ado désemparé, recherche société vivante chez Odile Jacob, et Olivier Fan, les jeux vidéo, l'alcool et le cannabis chez Solar. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre d'ailleurs, Marion Robin, société vivante, qu'est-ce que vous entendez par là exactement?
J'ai envie dans ce terme-là de questionner notre... cette époque bien particulière dans laquelle effectivement on parle de les médias, les attentats, cette période particulière qui fait qu'on est abreuvé par Internet et que chaque violence à chaque coin du monde, on l'a en temps réel. Il y a une forme d'intrusion de la mort permanente et je trouve que du coup ça met une tension particulière sur nos logiques de vie et de mort et que je crois que ça renforce le besoin d'aller explorer le vivant aussi et d'aller intensifier ce qu'est le vivant et qu'est-ce qui, dans notre société, part du côté de la fascination pour cette mort ou bien qu'est-ce qui va résister en essayant d'aller vers une vision plus complexe du monde. Alors ouais. C'est vrai parce qu'on dit voilà ce monde tellement anxiogène. Si on avait eu les infos au Moyen-Âge sur tout ce qui se passait au quotidien...
C'était pas tellement plus réjouissant, loin
voilà,
de là.
Hein. Voilà, ouais. Donc il y a vraiment... Enfin, comment on peut aujourd'hui continuer... Enfin, raisonner sur la réalité du monde, c'est-à-dire en prenant en compte son histoire et les progrès qu'il y a eu, y compris du côté de la violence, si on compare le nombre de, je sais pas, de morts dans la rue, dans une grande ville en Europe, en 2017, par rapport à 1980, avec les autres vagues d'attentats précédentes, etc. Au fond, est-ce que c'est plus dangereux ou moins dangereux? Je trouve qu'on est encore dans cette confusion-là, on n'arrive pas encore à clarifier où est-ce qu'on en est au fond vraiment. Il n'y a pas de guerre mondiale, on n'est pas impliqué dans une guerre mondiale, encore qu'en ce moment, c'est une discussion, est-ce qu'on est en guerre, pas en guerre. Enfin, et je trouve qu'il y a un vrai travail de clarification. Pourquoi moi, en tant que psychiatre d'adolescent, cette question m'intéresse? Parce que, voilà, je disais tout à l'heure, les adolescents ne questionnent pas ça directement avec des mots, mais ils agissent notre rapport à la mort, ouais. Celui des adultes.
Olivier Fan, on est en plus dans une société évidemment numérisée, digitale, où les informations circulent extrêmement vite et où l'anxiété aussi peut... être comme ça, divulgué et répertorié un peu partout sur les ordinateurs.
Oui, c'est vrai qu'il y a un excès d'informations par rapport à ça. Et c'est vrai que l'importance, c'est pas simplement les informations, c'est comment elles vont être discutées avec les parents. Là où on observe les troubles, quand il y a une association d'une décharge d'informations, mais impossibilité de pouvoir en discuter. Je crois qu'il faut préciser que les parents sont un très très bon garant. On le voit notamment sur les images pornographiques. On sait que si on est des parents qui sont ouverts à la discussion, à l'écoute... ça aura beaucoup moins d'impact que des parents qui trouvent que c'est un sujet tabou et on n'en parle pas. Hein, et l'association des images violentes avec l'impossibilité d'extérioriser, de nommer quelque chose, c'est là où se crée le trouble. Je crois qu'il faut... Les parents sont encore plus importants dans notre société d'aujourd'hui.
Alors justement, Marion Robin, est-ce que le métier de parent, lui, il est plus ou moins difficile à tenir aujourd'hui dans ce contexte-là?
Oui, je pense qu'il est vraiment très difficile à tenir dans ce contexte-là. Parce que je crois aussi qu'il y a une contamination cette mise en scène et ce vécu de violence omniprésent, de violence et de mort, il y a un effet, je pense, un peu de contamination et de vécu d'impuissance sur, au fond, qu'est-ce qu'on peut faire si finalement tout ça est tellement, tellement horrible, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Et ça, ajouté à ce que je disais tout à l'heure, du tissu social qui est quand même plus fragile probablement chez nous que dans d'autres endroits du monde. Voilà, je pense que ça contamine aussi cette parentalité aujourd'hui d'un vécu d'impuissance qui peut se traduire par une forme qui peut être d'un côté un peu amusante, mais qui à mon avis a vraiment son sens. C'est celui chez des préadolescents ou des enfants de pouvoir dire, même chez des petits, des 2, 3, 4 ans, quand ils s'opposent et que ça devient un conflit, de dire qu'est-ce que ça va être à l'adolescence, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où on observe ces premiers conflits, ces premières... sources d'affirmations qui sont très physiologiques, c'est-à-dire très normales et très nécessaires pour le développement, en ayant vécu la situation vécue sous le mode d'une impuissance parentale, va être finalement ça y est, c'est déjà un conflit dont je vais être perdant, un combat dont je vais ressortir perdant, et ça peut amener à louper l'occasion de construire ce qui est un conflit constructif et de vivre l'ado comme d'emblée de vivre l'enfant d'emblée comme un adolescent alors qu'il a que 8, 9, 10 ans et de risquer de passer à côté de cette occasion d'avancer sur l'éducation à cet endroit-là parce qu'il y a déjà une contamination par l'adolescence qui serait forcément explosive et dont on pourrait en tant que parent être forcément perdant quelque part.
Ouais. Olivier Fan, est-ce qu'il y a un phénomène de solitude aussi aujourd'hui pour le parent
alors,
et
je
ce
crois
métier
qu'il y a,
de parent?
Il y a surtout un phénomène de perte de contrôle. Justement, vous parlez de cette médiatisation, de cet accès. Dans l'enquête qu'on avait faite, on trouve 11 écrans par foyer. Donc, les ados sont surconnectés et de façon très tôt. Et les parents ont plutôt cette impression. Alors, effectivement, de solitude, notamment dans les grandes villes, mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont l'impression de perdre le contrôle de la situation de par l'afflux d'informations. C'est impossible de contrôler Internet aujourd'hui. Les enfants y ont accès. Et comment doit-on apprendre à contrôler les choses tout en n'ayant pas le contrôle total, c'est quelque chose de difficile.
Vous parliez des questions d'addiction tout à l'heure. La parentalité, le métier de parent, il est absolument central, justement, au cœur de cette thématique.
Même les adolescents les plus rebelles, quand on leur demande qu'est-ce qui est plus important pour eux, ils vont répondre leurs parents. Je crois que les manifestations, soi-disant antiparentales, sont en fait un appel. J'ai un adolescent qui disait « j'étais contre mes parents, mais la seule chose que je souhaitais, c'est qu'ils aillent vers moi ». Donc je crois que plus la société est en difficulté, plus les parents vont être là au cœur du dispositif. Et on sait que dans les recherches, toutes les conduites à risque, si on regarde le facteur de risque principal, ça reste l'environnement parental.
On va écouter un extrait d'un documentaire de France 2, Les Infiltrés, en 2010, sur les ados accros.
Entre les cours, la drogue et un peu de deal, Émilie jongle sans arrêt dans un quotidien visiblement mouvementé. Je cherche à en savoir plus sur cette jeune adolescente en classe de première qui semble déjà accro. Pendant la pause, Émilie retrouve à la sortie du lycée Julie, 18 ans. Les deux copines ont accepté que je les accompagne dans un café proche du lycée où elles ont leurs petites habitudes. Je les suis, direction les toilettes.
Allez, j'ai notre carte.
C'est quoi votre carte ?
C'est la carte de lycée, mais c'est celle qu'on prend tout le temps.
Donc ça vous fait quoi encore, tu m'as dit ?
Perte d'équilibre, ça va dans le coton. Ah putain, ça a le goût de la guerre. Ouah !
Ça fait mal au nez ?
Ah ouais, non mais la guerre, ça pique.
Cette drogue, la kétamine, issue d'un anesthésiant à usage vétérinaire, circule essentiellement dans les raves.
Voilà un exemple extrême de conduite addictive avec ces problèmes liés à la drogue. Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui, justement, Marion Robin, sur pour faire une sorte d'état des lieux de la consommation de ces substances ?
Malheureusement, en France, on n'est pas très bon, puisque à l'âge de 17 ans, il y a un adolescent sur deux qui a essayé le cannabis.
Un ado
sur deux, à peu près. Il y a 30% de fumeurs chez les adolescents. Les attitudes de consommation d'alcool, c'est quasi tout le monde, avec le nombre d'adolescents qui s'adonnent au binge drinking, qui deviennent importants. Les psychostimulants, c'est quelques pourcents. Mais ça reste assez ancré.
Ouais, si ça dit quoi alors des adolescents aujourd'hui ? Qui vont de plus en plus mal justement ou pas ?
En tout cas, ce qu'on peut voir quand on soigne des adolescents qui sont hospitalisés avec entre autres ce type de difficultés, que ce soit des, on va dire toutes les formes de la destructivité qui peuvent être donc les mises en danger liées aux toxiques, à l'alcool, aux produits de façon générale et la destructivité par les comportements suicidaires, c'est que finalement derrière on travaille des choses assez simples. C'est-à-dire qu'il y a, et en France, on dit beaucoup qu'on n'arrive pas à faire de la prévention assez efficace sur ces questions-là. C'est vrai qu'il reste une dépendance importante vis-à-vis de la médecine, alors qu'il y a plein de choses qu'on travaille, qui finalement, si elles étaient gérées en amont, pourraient dégager les adolescents beaucoup plus efficacement de ces questions-là. Je crois qu'ils arrivent là aussi, parce que on n'arrive pas avant à leur donner des repères aussi plus clairs sur des choses très simples, sur toutes les logiques qui nous traversent de façon inconsciente, nous les adultes, comme par exemple la question de la dépendance, l'interdépendance. Aujourd'hui, effectivement, les pathologies de la dépendance sont très au premier plan, mais nous, on travaille des choses toutes simples. C'est-à-dire que quand des jeunes arrivent et qu'ils ont, par exemple, ils se sont mis en danger suite à une première rupture sentimentale, et ils vont dire que finalement ils ont réalisé à ce moment-là qu'on pouvait dépendre de quelqu'un. Et finalement, nous, on est en train de reprendre à zéro un travail qui est, ben, au fond, bien sûr qu'on dépend tous les uns des autres, mais qu'est-ce que c'est éprouver ça ? C'est éprouver la frustration qui est que quand on dépend de quelqu'un, que l'autre n'est pas là, on éprouve un manque. Et aujourd'hui, ce manque-là, on peut le dénier facilement. Quelqu'un n'est pas là, on le remplace. Un écran n'est pas là, on en trouve un autre, etc. Mais se reconnecter à tout simplement qu'est-ce que l'altérité, qu'est-ce que le manque, qu'est-ce que donc la dépendance physiologique, qu'est-ce que l'attachement. On travaille aussi les questions du risque dans un monde où effectivement, on est arrivé, je pense, à un niveau de confort occidental qui fait qu'on... imaginer aujourd'hui des risques, c'est quelque chose. On a un rapport qui est devenu très particulier. La logique du risque zéro est assez permanente. Et alors pour ce qui est de l'industrie, etc. Voilà, ça paraît important. Pour ce qui est de l'humain, on voit bien les limites de ce raisonnement-là. Et nous, on passe notre temps à essayer de déconstruire le risque zéro et d'essayer de remettre une vision graduée du risque. Et ça, c'est pareil. C'est des choses qui peuvent s'apprendre à l'adolescence, bien avant d'en arriver en psychiatrie. Nous, on va faire un travail qui peut être fait avant. Quelles que soient les façons de le faire, elles peuvent être très variées, mais voilà, d'apprendre que ça se fait par étapes, très progressives dans le développement de l'adolescent.
Dans un instant, on verra l'exemple islandais justement sur les conduites addictives qui a vraiment porté ses fruits avec des résultats très étonnants. Ce sera dans la dernière partie avec les messages des auditeurs que je vous soumets dans un instant.
Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien.
Et c'était Orelsan.
La tête au carré sur France Inter.
Il y a quelques années, en Islande, les adolescents étaient de gros consommateurs d'alcool, de tabac et de drogue. Mais ça, c'était avant. Car en 1997, le gouvernement a lancé le programme Une Islande sans drogue. Les mineurs de 13 à 16 ans se sont vus imposer un couvre-feu à 22 heures. Ensuite, la majorité civile est passée de 16 à 18 ans, interdisant par la même occasion la vente de tabac aux mineurs. Quant à l'alcool, impossible d'en acheter pour les moins de 20 ans. Et enfin, le gouvernement donne à chaque famille un budget de 300 euros par enfant et par an pour des activités extrascolaires. Un programme qui en 20 ans a fait ses preuves. Le pourcentage des adolescents ayant déjà bu de l'alcool est passé de 40 à 5%. Les fumeurs, eux, sont passés de 25 à 3% et les consommateurs de cannabis de 17 à 7%.
Voilà, reportage de genside.com cette année. Marion Robin, Olivier Fan, un commentaire sur cette expérience islandaise qui évidemment nous laisse assez pantois. Olivier Fan.
Je crois que ce qui est intéressant, c'est la contrainte bienveillante. Quand on demande aux adolescents quels sont les profs qui les ont marqués, ils décrivent des profs sévères, mais extrêmement bienveillants.
Donc l'autorité bienveillante.
L'autorité bienveillante. Ouais. C'est-à-dire que dans cette expérience, il y a en même temps l'interdit et en même temps la facilitation, je dirais, des activités extrascolaires à l'intérieur de la famille.
Oui, puisqu'on donne ce budget.
Puisqu'on donne ce budget.
Je crois 300 euros par enfant.
L'adolescent, s'il perçoit l'interdit comme pas bienveillant, va essayer de le contourner, va essayer de le transgresser. Mm-hmm. Ça devient en même temps un jeu. La difficulté de la loi, c'est qu'elle soit bienveillante. C'est ce qu'on explique dans le livre, c'est que à partir du moment où c'est profondément bienveillant, ça change les choses, et ce qu'il faut, à mon avis, retenir.
Marion Robin, un commentaire, puis ensuite on répond aux auditeurs.
Oui, je pense qu'à ça, on peut rajouter le fait qu'il y ait, c'est un exemple d'une société adulte qui a un projet pour ses adolescents. Et rien que le fait d'avoir un projet précis, donne un but, et donc ce but-là va justifier des contraintes qui sont là, mais voilà, la vie, c'est des contraintes aussi.
C'est pas le cas de la France ? Il n'y a pas de projet pour nos ados en France ?
Ben, il y a des réflexions.
Le silence voulait tout dire, non, quand même.
Je crois qu'il y a un deuil à faire d'une France qui a beaucoup changé. C'est vrai que j'ai des parents qui me disent, mais moi, quand mon père me disait quelque chose, je suivais. Quand on peut offrir le plein emploi, c'est plus facile d'imposer des règles. Quand on peut pas proposer le plein emploi, qu'on sait qu'on va ne va plus pouvoir garder, c'est, voilà.
Et à partir du moment où du coup où une société peut créer un projet, bah du coup plein de choses se mettent en place, donc l'acceptation de certaines formes de contraintes et puis aussi l'intelligence collective qui se met en œuvre. C'est-à-dire que là, des groupes s'organisent d'adultes de différentes professions pour ce projet-là, pour réaliser. Au Canada, par exemple, les jeunes qui sont collégiens, lycéens, au lieu d'avoir juste un stage de quelques jours d'observation du milieu professionnel adulte, ils ont des passages très réguliers dans la ville qui valident leur diplôme. Mmh. Et donc, ils sont au contact des institutions, de leur mairie, des associations locales. Et donc, ils sont déjà impliqués dans le monde adulte.
Allez, on consacre les dernières minutes au message. Maryse nous dit, à Angers, des étudiants ont été brûlés au cours d'une soirée d'intégration. Que pensez-vous du comportement de tels ados ? Donc ça, c'était très récent.
Oui, c'est la fête, c'est toujours la période des extrêmes. C'est un temps où se déroulent tous les extrêmes possibles. C'est même le principe de la fête, qui sert un petit peu d'exutoire par rapport à des moments difficiles. Après, il y a, je dirais, entre la prise de risque et la mise en danger, et là où tout devient permis, et où les phénomènes de groupe abolissent, je dirais, le libre-arbitre. Mmh. Et qu'il faut qu'on puisse insister que malgré tout, malgré la fête, il faut insister pour que l'adolescent garde son esprit critique et son libre-arbitre, parce que s'il le perd, on arrive à des catastrophes.
Beaucoup de messages de parents désemparés comme Marianne. Comment peut-on faire pour aider un ado de 16 ans qui se sent mal dans la société, à quel point qu'il a décidé d'arrêter une scolarité où il était brillant, exprimant le fait que le système ne lui convient pas et qu'il n'est pas écouté, envisageant même de partir vivre au fond d'une forêt. Nous sommes vraiment démunis, que faire ? Même chose pour Laura avec son ado de 17 ans qui lui aussi refuse d'aller maintenant à l'école.
Oui, bien sûr, ne pas rester seul avec ça. Les solutions, elles vont être à tous les niveaux. Au niveau individuel parental, c'est s'entourer de la famille élargie, s'entourer de... Parfois, on parlait tout à l'heure de la difficulté de la parentalité aujourd'hui, de la solitude des parents, et encore quand ils ne sont pas eux-mêmes séparés. Mais il y a souvent, au moment des soins, au moment d'un mal-être d'un adolescent, besoin de se resolidariser entre parents quand il y a une séparation pour avancer ensemble, de mobiliser la famille élargie, de mobiliser l'entourage de la famille. Et ce qui montre... Il y a certaines études qui rapportent que ce qui est le garant le plus important de la continuité scolaire et de la réussite scolaire des jeunes, c'est le maillage serré entre les parents et les professeurs. Mmh. Et aujourd'hui, on est vraiment en crise sur cette question-là. C'est-à-dire que chacun gère comme il peut dans sa solitude, les profs, les parents, les professionnels. Et c'est vraiment au niveau du maillage et de l'intelligence collective qu'on a beaucoup à faire.
Ouais, au niveau de la Fondation Santé des études en France, justement, Olivier Fan, ça c'est quelque chose sur lequel vous travaillez énormément, ce resserrement des liens.
Resserrement des liens, et aussi on travaille beaucoup sur ce qu'on sait sur la gestion des émotions. On parle de ces adolescents qui restent chez eux. C'est le phénomène au Japon qu'on appelle les hikikomori ou les no-life. Ouais. Ce qui domine, c'est la peur. Et quand on a trop peur, eh bien, on est dans des études de reclus, d'évitement, et qu'il faut essayer de pouvoir gérer cette peur pour pouvoir la dépasser. C'est ce qu'on essaie de travailler, la colère, la tristesse, la peur, avec des outils qui deviennent de plus en plus performants, des connaissances en neurosciences qui permettent de pouvoir être diffusées au grand public pour qu'ils puissent se les approprier et les utiliser au mieux.
Fred dit « Je suis clown, je joue dans un service pour adolescents en pédopsychiatrie toutes les semaines. Ce qui me touche le plus, c'est la vérité exprimée par les adolescents en mal-être et le fait que leur sensibilité ne trouve pas à s'exprimer dans le contexte dans lequel ils vivent. » C'est ça aussi le manque de parole, au fond ?
Oui, c'est ça. Et c'est vrai que quand on parlait des peurs ambiantes, un adolescent, par exemple un adolescent qui se replie au domicile et qui développe une peur d'aller à l'école, peut témoigner de différentes choses quand après on va analyser la situation individuelle, mais il peut témoigner par exemple d'une peur globale du monde et d'un repli. Donc il va pas dire j'ai peur des attentats, mais il va le montrer par ce comportement-là. Et dans ce cas-là, tout ce qu'on aura mis en amont du côté de donner à ces jeunes l'accès à la complexité du monde, c'est-à-dire que c'est pas que les attentats, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette complexité-là, leur faire rencontrer du monde pour discuter de ces questions-là et leur donner accès à des informations complexes, c'est-à-dire pas une seule source d'information, pas que Internet, la première page qui apparaît, mais une source complexe d'information. Ça, c'est important. Après, pour la déscolarisation, il y a aussi la question de l'appartenance au collectif, je trouve, qui apparaît beaucoup dans les situations individuelles, c'est que, et la pression scolaire. Il y a beaucoup de jeunes qui disent, voilà, j'y arriverai pas parce que je sais qu'aujourd'hui, si j'ai pas un diplôme, je m'en sortirai jamais. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la peur derrière ça, c'est celle d'être désinséré de la société. C'est pas tant celle de pas avoir le diplôme qu'ils imaginent que ses parents attendent de lui. C'est ne pas trouver sa place dans la société. C'est-à-dire que s'ils expérimentent entre 13 et 16 ans, que de toute manière, ils ont une place quelque part, qu'ils appartiennent à un groupe, que ce soit leur classe, leur milieu local, quoi, ils vont déjà rassurer sur le fait que ce n'est pas à 25 ans, une fois qu'on a son diplôme, qu'on prend une place dans la société, parce qu'ils l'auront déjà éprouvé avant. Et là-dessus, ils sont très en difficulté aujourd'hui, parce que dans leur classe, ils ont du mal à éprouver la place qu'ils ont, c'est-à-dire dans leur singularité.
Allez, il nous reste très peu de temps. Encore deux questions. Catherine nous dit, malheureusement, certains acteurs économiques ont une lourde responsabilité. Combien de jeux vidéo, de séries violentes proposées quotidiennement à tous, donc aux adolescents fragiles ?
Alors, c'est vrai que les adolescents fragiles payent un lourd tribut par rapport à ça, hein, des jeux qui deviennent de plus en plus performants et qui attirent. Je crois qu'il ne faut pas diaboliser les jeux. C'est pas parce qu'on a des accidents de voiture qu'on a interdit les voitures. Je crois qu'il faut à la fois venir en aide aux plus vulnérables et que la société joue son rôle pour que le jeu reste un plaisir et non une contrainte.
Et que faire de l'ado, demande Anaïk, qui ne prend aucun risque, qui se sent bien dans son cocon familial, mais qui lâche à l'école, qui ne voit pas ce qu'il peut faire. Qui veut répondre ? Marion Robin ? Le cocon familial, alors, l'enveloppe douillette.
Oui, tout à fait.
Bah, et aussi la peur d'aller à l'extérieur, de se confronter à d'autres réalités.
Bah, il est question, là encore, je crois vraiment, et c'est le thème le plus important en ce moment, de la transition entre l'intérieur et l'extérieur, entre le petit monde cocon et le grand monde. Et cette transition-là, c'est le tissu local, c'est l'association, c'est les activités associatives qui peuvent éprouver avant même de devenir majeurs. Tout ce qu'ils ont pu expérimenter avant du côté de la prise de risque graduée fait que du coup ils vont pas intégrer un raisonnement manichéen qui serait voilà, à l'intérieur c'est bon, à l'extérieur c'est mauvais. Voilà, c'est d'accéder à cette complexité-là. Non, c'est gradué, c'est très progressif, il y a de tout à l'intérieur comme à l'extérieur. Et voilà, je pense qu'en évoluant le plus progressivement possible, on peut les aider à se rassurer sur l'autonomie qu'ils prennent.
Ouais. Olivier Fan, ils vont bien quand même nos ados, hein. On va le redire parce qu'on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, on va aussi terminer avec ça.
Bah oui, et ce qu'on fait nous, c'est que dans le livre, ce qu'on essaie de faire, c'est comment les accompagner au mieux pour que cette période à risque soit une période riche et non dangereuse. C'est l'accompagnant des parents aussi qui feront qu'on passera cette période sans encombre.
Jeux vidéo, alcool, cannabis pour vous, Olivier Fan chez Solar, et puis Marion Robin, Ado désemparé, cherche Société vivante, cet ouvrage est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
C'est terminé pour notre Tête au Carré aujourd'hui. Merci à Théo Gomard et Raphaël Rousset qui étaient aujourd'hui à la technique. Demain, nous parlerons des hyperlieux avec le géographe Michel Lucène.